Je fais un peu le tour de l'Europe. Je reviens justement de Berlin où je me trouvais hier. Nous avons eu une discussion sur bon, certains aspects de la négociation dans le système suédois la semaine précédente. J'étais à Varsovie. Je me suis exprimé face à plusieurs eurodéputés du Parlement européen. Donc voilà, c'est la dernière partie d'un petit voyage européen. Alors voilà, désolé s'il y a des bruits. Je sais que certains d'entre vous seront fatigués, mais voilà, soyons. Les derniers mètres sont les plus durs, n'est-ce pas? Tenons bon. Alors voilà, vous m'avez déjà présenté. Je suis General Counsel de la Swedish Union of Tenants. C'est à Stockholm. Je m'occupe des aspects juridiques, mais également européens du marché du logement. Alors, cela étant dit, je vais essayer de partager mon écran. Alors, un petit instant, je vous prie. Alors, j'espère qu'à présent, vous pouvez voir mon écran.
Yes.
Oui, tout à fait, nous le voyons, votre écran. Alors, j'essaie de changer de page, mais ça ne... Ah, voilà, maintenant ça fonctionne. Alors, voilà, un aperçu rapide du contexte. Ensuite, on va avoir une introduction rapide de l'Union suédoise des locataires. Donc, c'est une organisation qui existe depuis 100 ans en Suède. Cette année, nous célébrons le 100e anniversaire. Donc, et au cours de ces 100 années, nous sommes devenus une organisation qui représente 530 000 foyers en Suède. En tant qu'organisation, nous sommes une démocratie représentative et nous sommes 8 000 représentants élus et 850 employés. Alors, à l'écran, à gauche, c'est notre président, Mavilinda. Alors, comme organisation, nous faisons des campagnes pour influencer. Sur toutes les questions qui sont liées au caractère économiquement abordable des loyers, la neutralité, le caractère abordable des loyers, mais nous représentons bien entendu les locataires dans les négociations annuelles plutôt, qui ont lieu en Suède sur les loyers. Elles ont lieu en ce moment d'ailleurs. Alors, en plus de cela, nous proposons également à nos membres tout un ensemble d'avantages qui nous rendent attractifs vis-à-vis d'eux et d'autres locataires, mais également nous leur fournissons une aide juridique et une représentation juridique dans les tribunaux et dans les négociations de loyers. Nous nous occupons de 4 000 affaires plus ou moins chaque année en ce sens. Alors, nous allons passer déjà à la suite, car je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, des informations de contexte sur la Suède en tant que pays. Nous avons à peu près la même taille que la Belgique au niveau de la population, à savoir 10,5 millions d'habitants. Au cours des 20 dernières années, plutôt, nous avons connu une croissance démographique très accentuée. Nous avons un nouveau gouvernement depuis 4 mois, donc c'était au mois de septembre que celui-ci est entré au pouvoir, avec des démocrates chrétiens, conservateurs, un peu nationalistes sur les bords, disons. Et bon, Dieu sait ce que cela va donner. Pour le moment, ils n'ont pas vraiment imprimé leur marque sur la politique de logement, mais nous les suivons à différents niveaux. Voilà, nous verrons bien ce que cela va donner dans les années à venir, ce nouveau gouvernement. Alors, la Suède, en tant que pays, a été relativement chanceuse, tant à travers la crise financière de 2010, ainsi que pour ce qui est de la crise de la COVID plus récente. Alors, à présent, la crise ukrainienne a eu une incidence un peu différente. Je ne sais pas exactement comment les choses vont évoluer. L'inflation, bien entendu, met un gros point d'interrogation sur le développement économique du pays. Alors, pour ce qui est de la structure sociale du pays, elle est devenue légèrement plus inégale au cours des dernières années et on ressent on voit la différence entre les différentes classes sociales qui se sont encore creusées par rapport à il y a de cela 10 ans. Alors, le peuple suédois, vous le voyez sur ce graphique, est plus ou moins réparti de manière égale, à savoir qu'environ un tiers est propriétaire de leur maison, un tiers loue leur logement et un autre tiers vivant en colocation. Et à terme, le marché de la location, 36% est réparti de la manière suivante. 35% sont des autorités publiques qui mettent en location les logements qui sont occupés et 35% c'est privé. Alors, ce qui est intéressant sur le marché suédois également, c'est qu'ils ont beaucoup investi à très haut niveau jusque dans les années 90. Et on le voit ici sur ce graphique, à partir des années 1993-94, il y a eu une chute importante qui a correspondu à la crise et à la fin des subventions pour les constructions de logements. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, la dette a été transférée plutôt à la sphère privée plutôt que aux institutions municipales, et passée des institutions municipales à la sphère privée, pour le dire mieux. Cela correspond également malheureusement avec cette croissance relativement élevée de la population, alors que les investissements ont été fortement réduits, les investissements dans les logements publics, la population a augmenté d'environ 20%. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un grand besoin de logements en Suède, un véritable manque de logements. Les niveaux de construction n'ont pas suivi cette tendance à la hausse de la population, pas du tout. Bon, je serais heureux de vous partager cette présentation. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps, donc je vais passer celle-ci. Alors, nous voici sur la page suivante. Alors, pour résumer la situation sur le marché du logement en Suède, ce qu'on constate, c'est que le marché de la construction est soumis à une situation d'entente, pour ainsi dire, les entreprises de construction, en gros, nous font payer ce qu'elles veulent, que vous ayez les moyens ou pas. Et cela a entraîné une augmentation des prix, bien entendu. Les politiques fiscales ont encore aggravé ce phénomène, l'augmentation de la dette des ménages et les déductions des intérêts de prêts hypothécaires représentent 0,7% du PIB. En Suède, et c'est unique, nous avons également un précompte immobilier. Mais également, nous avons un précompte immobilier sur les logements qui sont loués. Ça, c'est très spécifique à la Suède. Alors, tout à coup, l'interprète entend très mal parce qu'une oratrice a allumé son micro. Si elle pouvait l'éteindre, madame, voilà, oui. Voilà, c'est mieux, merci. L'interprète vous remercie. Alors, cela est peut-être lié à des conflits que nous avons eus en Suède avec la Commission européenne à la fin du XXe siècle qui n'ont pas encore été résolus. Et donc, en ce sens, on est passé à un système du marché de la location en Suède. Nous avons connu tout un ensemble de systèmes. Nous avons eu des marchés de la location jusqu'au début du XXe siècle avec des contrôles des loyers. Et aujourd'hui, nous avons le système des valeurs utilitaires, comme on l'appelle. Par exemple, les loyers du marché, les loyers ils sont fixés de manière arbitraire, individuelle, par chaque bailleur. et il n'y a pas vraiment de sécurité de logement qui puisse être garantie. Normalement, cela est complété par des logements sociaux. Bon, en Belgique, vous connaissez bien le fonctionnement de ce système. Alors, par contre, le système de valeurs utilitaires, d'autre part, est un modèle uniquement suédois, une combinaison d'un contrôle des loyers et d'une mainmise du marché. La majorité des loyers en Suède sont négociés au titre de négociations collectives à travers des grandes organisations et se caractérise par une liberté contractuelle dans laquelle les parties ont plus ou moins le droit de proposer ce qu'elles souhaitent. Et au bout du compte, c'est la négociation qui déterminera le résultat final en termes de loyer. Et cela est également complété par une forte sécurité au logement. Nous y reviendrons. Sécurité d'occupation, plutôt. Les premières semences ont été semées dans les années 50 et ce système s'est développé dans les décennies qui ont suivi. Ça reste le système dominant en Suède qui est plus ou moins accepté par la plupart des parties avec certains opposants encore. Toutefois, ça reste un système plus ou moins relativement efficace. Le modèle suédois, pour le résumer en quelques mots, est un modèle universel. Nous n'avons pas de logements sociaux au sens strict du terme. On parle de logements publics qui sont entièrement ouverts à qui que ce soit. Le parc de logements est de haut standing et même si de nombreux logements ont été construits dans les années 60, leur qualité reste très élevée. Bien entendu, ils ont besoin d'être entretenus, ils ont besoin de maintenance de temps à autre. Et beaucoup de logements sont sur le point d'être modernisés, ce qui va avoir bien entendu un effet sur les loyers, mais le standing est très élevé. Alors, je mentionnais également la sécurité d'occupation. Ça, c'est une des pierres angulaires de la législation suédoise qui s'applique tant aux bailleurs privés qu'aux entreprises municipales de logement. Il y a également des aides aux loyers qui sont fournies aux ménages à faible revenu. Et le système de protection sociale contribue également au loyer des ménages les plus faibles, de revenus les plus faibles. Nous travaillons sur la base d'un loyer brut, à savoir un loyer qui comprend le chauffage, mais pas l'eau chaude et l'eau chaude, pardon. Alors, en Suède, il est exceptionnel qu'il faille verser une garantie locative au moment de la signature d'un bail. Le bail, c'est plutôt sur la base d'une confiance mutuelle. Et lorsque vous avez un contrat de bail, vous avez le droit, dans certaines conditions, d'échanger votre logement gratuitement avec un autre bailleur qui vit ailleurs, forcément. Et ça, ce système est gratuit. Cela fait partie de la vie réglementaire quotidienne des locataires en Suède. Alors, quand on s'intéresse à l'ampleur, à l'échelle du marché de la location suédois, il y a 1,8 million de locations en Suède et 1,5 million de ceux-ci, ce sont des appartements loués qui font l'objet de négociations collectives au niveau des loyers. Et 1,6 million de ceux-ci font l'objet du système de la valeur utilitaire. La moitié de ce stock appartient à des entreprises municipales, à savoir environ 800 000 appartements qui appartiennent aux municipalités. Et donc, 800 000 appartements sont la propriété du secteur privé. Donc, pour le moment, la valeur totale des locations, c'est 110 milliards de couronnes suédoises, à savoir environ 10 milliards d'euros par an. Cela vous donne une idée de l'ampleur, de l'échelle du marché de la location suédois. Alors, les entreprises municipales de logement sont au nombre de 300, plus ou moins, et 45 000 bailleurs privés. À travers la négociation collective, on estime une économie de 153 millions de couronnes suédoises par rapport à ce qui aurait été le cas avec un système purement privé. Rien qu'à Stockholm, 153 millions de couronnes suédoises épargnées grâce à ce système de la négociation collective dans la ville de Stockholm par rapport à un système déréglementé et dépourvu de telles négociations collectives. Voilà, je ne vais pas trop m'appesantir sur celle-ci, je pense que c'est assez évocateur. Bon, on parle de l'indice des prix à la consommation par rapport à l'inflation. Et bon, les deux, normalement, se suivent très bien. Les chiffres ici ont quelques années. Il existe des chiffres plus récents, malheureusement, je n'ai pas pu les recueillir avant ma présentation d'aujourd'hui. Mais à titre d'illustration, je pense que voilà, la tendance se confirme encore aujourd'hui, hein. Il en va de même pour celui-ci. C'est un graphique qui montre les retours totaux annuels à long terme pour les actifs immobiliers. Vous voyez, le résidentiel, c'est la ligne rose, et cela montre très bien que même si le système fait l'objet de conventions collectives, on constate que l'augmentation annuelle des loyers est relativement faible. Cela montre que les bailleurs, malgré cela, chaque année, font des recettes assez intéressantes. Je vous fournirai cette présentation. Vous pourrez l'analyser dans le détail, mais vous voyez que ce système est plus rentable que le privé ou le commercial. Et donc, nous considérons que ce modèle est tout à fait intéressant, qu'il est équitable. C'est un système dans lequel les conflits internes entre les bailleurs et les locataires sont réglés à la source de manière la plus efficace. Donc, rapidement, à présent, nous allons passer au cadre juridique. On va commencer avec les relations locatives. Alors, les accords de location, l'intérêt qu'ils soient à long terme ou à très long terme, en tout cas sur le marché suédois, c'est le cas. Ils sont également caractérisés par leur succession et leur répétition. Entre les deux parties à cet accord juridique, cet accord de location, contrat de location. Et alors, un accord de location, en plus d'être un accord économique, il est également un accord social. Il a une incidence sociale majeure pour les parties impliquées. C'est une relation tout à fait spécifique entre les deux parties. Le cadre juridique actuel en Suède est caractérisé par deux ensembles de règles qui s'appliquent de manière parallèle. L'objectif principal étant de protéger les consommateurs. Donc, il ne s'agit pas principalement d'une législation économique, mais plutôt une législation de protection des consommateurs, plutôt. La première législation, la législation sur les locataires, contient un plafond des loyers au titre duquel les bailleurs ne peuvent pas demander des loyers excessivement élevés sur base annuelle de manière disproportionnée par rapport à d'autres logements similaires. Donc, cela est tout à fait lié, est étroitement lié à la protection des locataires. On ne peut jamais, par exemple, faire l'objet d'une augmentation de 15% des loyers, car les augmentations de loyers doivent toujours correspondre à la tendance générale du marché pour des biens comparables. Et alors, il y a des mécanismes d'arbitrage intégrés à cette législation qui dépendent du type de bailleur, public ou privé, mais qui il s'agit d'un système autoréglementé avec la participation des deux parties dans une approche de confiance mutuelle, si vous voulez, entre les deux parties. Alors, le deuxième instrument législatif important dans la législation du logement et de la location en Suède, c'est la législation sur la négociation des loyers qui réglemente les négociations en matière de loyer, comme son nom l'indique. Alors, l'Union suédoise des locataires, nous représentons la majorité d'entre eux, n'ont aucune obligation. Rien ne dit dans cette législation que ceux-ci doivent négocier les salaires. Ils ont le droit de le faire s'ils le souhaitent. Mais bon, je vous l'ai dit, nous négocions 90%, 90% de ces loyers. Alors, comme je l'ai déjà dit, la sécurité d'occupation, c'est un principe fondamental de la législation suédoise en matière de location. Il y a un droit primaire de tout locataire de pouvoir rester dans la propriété qu'il loue, même si le bailleur résilie un bail. Même en cas de résiliation de votre bail, vous avez la possibilité de saisir la justice, sauf si, bien entendu, vous souhaitez partir volontairement de votre logement. Chaque règle a bien entendu une exception, même si la sécurité d'occupation est très forte, il y a tout de même des exceptions dans lesquelles on peut vous forcer à quitter votre logement. Ces exceptions sont clairement définies dans la législation, bien entendu. Par exemple, en cas de violation de votre part du bail, par refus de payer le loyer ou par des perturbations de votre voisinage, alors voilà, ou si vous menez des activités criminelles ou ce genre de choses. Alors, la sécurité d'occupation est également moins garantie si vous êtes un locataire de seconde main, un sous-locataire plutôt. Dans un tel cas, vous n'avez votre sécurité d'occupation n'est garantie que pour le locataire de premier plan. Alors, si vous avez une location, un bail de location pour une durée de moins de 2 ans, alors votre sécurité d'occupation n'est pas garantie. Ou alors, si vous avez une location à des fins de loisirs pour une période de moins de 9 mois. Alors, je vous ai déjà parlé des différents instruments de protection sociale de la législation en matière de location. Cela est intrinsèquement lié à la constitution suédoise qui garantit aux citoyens l'accès à un logement pour y établir leur ménage. Malgré le manque criant de logements dans le pays, mais il y a tout de même ce principe fondateur. Alors, l'aspect de protection sociale met l'accent sur les relations de négociation entre la partie la plus forte, telle qu'elle peut être considérée dans la législation sur les consommateurs, et la partie la plus faible, à savoir les locataires, et met l'accent sur la responsabilité sociale primaire de ne pas expulser de manière aléatoire des locataires. Et à travers ce type de relation, nous avons établi une sécurité forte d'occupation. Et cette législation est également considérée comme une législation de protection sociale à ce titre. Voilà, nous n'allons pas rentrer dans le détail ici. Je passe directement à la page suivante. Les relations avec des locataires peuvent donner lieu à des procédures judiciaires dans différentes circonstances. Il y a d'ailleurs un tribunal des loyers. C'est un tribunal avec un juge, avocat et deux membres qui représentent chacun les intérêts des parties en présence. Donc, un représentant de l'organisation des locataires et un représentant de l'organisation des bailleurs. Et ensuite, le juge atteint une conclusion et prend une décision qui est juridiquement contraignante. Cette décision du tribunal des loyers peut faire l'objet d'un appel auprès de la Sverovrat, donc c'est la cour de première instance. Il s'agit d'un tribunal standard avec trois juges qui sont spécialisés dans le droit au logement. Les autres types de conflits sont portés à l'attention des tribunaux non spécialisés en matière de loyer. Par exemple, pour ceux qui ont des questions de réduction des loyers, de dommages et intérêts, etc. Cette partie-ci, nous allons également la passer. Nous avons déjà parlé de la valeur utilitaire, certes, mais laissez-moi quand même vous dire quelques mots sur... Alors, le système de la valeur utilitaire est vraiment à la base du système suédois. Et je vous le disais, il repose sur la liberté contractuelle. Il s'agit de bloquer les loyers déraisonnables. Et ce système de valeur utilitaire se fonde sur l'offre et la demande uniquement lorsque le marché est équilibré. Et nous savons que la plupart des marchés de la location en Europe et dans le monde ne sont probablement pas équilibré. Il y a davantage d'intérêt que de disponibilité des logements. Et donc, ce concept repose sur le fait que les pénuries de logements ne devraient pas permettre d'entraîner une augmentation des loyers. Et le système de la valeur utilitaire, en gros, représente et reflète la valeur générale telle qu'appréciée par les locataires lorsqu'ils sont à la recherche d'un appartement. Et le mot-clé est que le même appartement devrait être loué au même prix partout. Alors, ce système de négociation collective que nous utilisons en Suède, nous le considérons comme une garantie pour une évolution juste et saine du marché, tant pour les bailleurs que pour les locataires. Bien entendu, il y a un conflit entre ces deux parties, l'une voulant augmenter les loyers, l'autre souhaitant les réduire. Mais lorsqu'on essaye de trouver de mettre l'église au milieu du village, on se rend compte qu'il est possible de trouver une appréciation équilibrée de ce que devrait être un loyer équitable. L'avantage de ce système est également que les locataires ont le droit très largement d'exercer leurs droits de manière collective, à savoir qu'il ne s'agit pas simplement de locataires isolés face à des grandes organisations de bailleurs ou de grandes sociétés privées de location. Non, ils peuvent unir leurs forces et travailler de manière collective, ce qui les rend plus forts. Et ce système permet également de parvenir à des solutions efficaces sur le plan des coûts de l'efficacité pour les deux parties.
You have 1 minute left to...
Il vous reste une minute pour conclure. Johan, j'en suis totalement désolé. D'accord, oui, je comprends bien, pas de problème. Oui, en fait, d'ailleurs, je suis à l'endroit parfait pour conclure. Je pourrais continuer, mais on peut s'arrêter ici sur ces trois points. Je vais partager avec vous la présentation. Vous pouvez y jeter un œil et vous êtes les bienvenus pour me contacter, moi ou quiconque au sein de mon organisation. Voilà, on peut s'arrêter ici. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole.